Jules. Il faisait chaud le jour de ton enterrement. Les rayons brûlants du soleil chatoyaient sur la surface de l'eau. La lumière était trop vive, l'air oppressant, trop humide. On a marché jusqu'à l'église, Léna et moi. Elle a commencé à marcher devant moi et peu à peu, la distance entre nous s'est allongée. Je ne suis pas très douée avec des talons alors qu'on dirait qu'elle est née avec. Elle était très élégante, très belle. Elle faisait plus que ses 15 ans dans sa robe de crêpe noire avec une découpe en forme de serrure au décolleté. On a marché en silence en suivant les détours de la rivière Mossad. Il flottait dans l'air une odeur de décomposition. Lorsqu'on a tourné sur la route à l'approche du pont, j'ai commencé à avoir peur. Et si personne ne venait à l'église? Et si Léna et moi étions obligés de nous asseoir côte à côte, avec uniquement toi entre nous deux? J'ai gardé la tête baissée pour surveiller la route. Je me suis contentée de mettre un pied devant l'autre en tâchant de ne pas trébucher sur le bitume irrégulier. La chemise que j'avais mise, en synthétique noire avec un nœud à la gorge, absolument pas judicieuse compte tenu de la météo, me collait en bas du dos. Mes yeux ont commencé à me piquer. Peu importe, j'ai pensé. Si mon mascara coule, les gens s'imagineront que j'ai pleuré. Léna n'a toujours pas pleuré. En tout cas, pas devant moi. Parfois, la nuit, je crois l'entendre sangloter, mais chaque matin, elle apparaît, nonchalante, le regard vif. Elle rentre et sort sans jamais me prévenir. Je l'entends parler à voix basse dans sa chambre, mais elle m'ignore. Elle se dérobe à mon approche. Elle grogne quand je lui pose des questions. Elle fuit mes attentions. Elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Je me souviens quand tu es venu dans ma chambre après la mort de maman, parce que tu voulais parler et que je t'ai demandé de me laisser. Est-ce que là, c'est pareil? Est-ce qu'elle fait la même chose que moi? Je n'arrive pas à savoir. Alors qu'on s'approchait de l'église, j'ai repéré une femme assise sur un banc au bord de la route. Et elle m'a souri, dévoilant ses dents pourries. J'ai cru entendre quelqu'un rire, mais ce n'était que toi, dans ma tête. Certaines des femmes au sujet desquelles tu as écrit sont enterrées dans ce cimetière. Certaines de tes « femmes à problème ». Est-ce que vous étiez toutes des femmes à problème? Libby, oui, bien sûr. À 14 ans, elle a séduit un homme de 34 ans et l'a incité à quitter son épouse aimante et leur nouveau-né. Avec l'aide de sa tante, la vieille harpie May Seaton, et des nombreux démons qu'elles ont invoqués à elles deux, Libby a ensorcelé ce pauvre malheureux de Matthew et l'a entraîné à commettre de multiples actes contre nature. En voilà une femme à problème. On disait que Mary Marsh pratiquait des avortements. Anne Ward était une meurtrière. Mais toi, Nell, qu'avais-tu fait? À qui avais-tu causé des problèmes? Libby est enterrée dans le cimetière. Tu savais où les trouver, elle et les autres. Tu m'emmenais voir les pierres tombales. Pour qu'on puisse y lire les mots gravés, tu allais gratter la mousse. Et tu la gardais. Tu te glissais dans ma chambre pour en déposer sous mon oreiller, puis tu me disais que c'était Libby qui l'avait laissée là. Tu me racontais que la nuit, elle longeait la rivière et que, si on écoutait attentivement, on pouvait l'entendre appeler sa tante, May, la supplier de venir à son secours. May ne répond jamais. Elle ne peut pas, elle n'est pas dans le cimetière. Après lui avoir extorqué sa confession sous la torture, ils l'ont pendue en place publique. Sa dépouille est enterrée dans les bois, en dehors de l'enceinte du cimetière, des clous plantés dans les jambes pour qu'elle ne puisse jamais se relever. Au milieu du pont, Léna s'est retournée pour me regarder, juste une seconde. Son expression, de l'impatience avec peut-être une pointe de pitié, était si semblable à la tienne que j'en ai frissonné. J'ai serré les poings et me suis mordu la lèvre. Je ne dois pas avoir peur d'elle. Ce n'est qu'une enfant. J'avais mal aux pieds. La sueur me démangeait en haut du front. J'avais envie de déchirer le tissu de ma chemise, d'arracher ma peau. J'ai aperçu une petite foule réunie sur le parking de l'église. Les gens se sont retournés vers nous pour nous regarder approcher. Je me suis brièvement demandé ce que ça ferait de me jeter par-dessus le muret de pierre. Ce serait terrifiant, oui, mais rien qu'un court instant. Ensuite, je glisserais dans la boue et je laisserais l'eau se refermer au-dessus de ma tête. Quel soulagement ce serait de sentir le froid et d'être enfin invisible. À l'intérieur, Léna et moi nous sommes assises côte à côte, mais séparées d'une bonne trentaine de centimètres, sur la première rangée. L'église était bondée. Quelque part, derrière nous, une femme sanglotait sans discontinuer, comme si elle avait le cœur brisé. Le pasteur a parlé de ta vie. Il a énuméré tout ce que tu avais accompli. Il a parlé de ta dévotion envers ta fille. Il m'a aussi rapidement évoqué. Étant donné que c'était moi qui lui avais fourni les informations, je ne pouvais pas vraiment lui reprocher le côté superficiel de son discours. J'aurais pu m'exprimer, moi aussi. J'aurais peut-être même dû. Mais je n'arrivais pas à trouver comment parler de toi sans te trahir, sans me trahir et sans trahir la vérité. L'office s'est terminé de manière abrupte et le temps que je m'en rende compte, Lena était déjà debout. Je l'ai suivie dans l'allée centrale et soudain, le poids des regards braqués sur nous ne m'a plus paru réconfortant, mais menaçant. J'ai essayé de ne pas voir les visages autour de moi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La femme en pleurs, au visage rouge et fripé, Sean Townsend qui a croisé mon regard, un jeune homme à la tête baissée, un adolescent qui riait sous cap, un homme violent. Je me suis immobilisée net et la femme derrière moi m'a marché sur le pied. « Désolée, désolée », a-t-elle murmuré en se faufilant devant moi pour sortir. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni déglutir. Mes entrailles s'étaient liquéfiées. C'était lui. Plus vieux, oui. Plus laid, défraîchi. Mais le doute n'était pas permis. Un homme violent. J'ai attendu qu'il se tourne vers moi. J'ai songé qu'à ce moment-là, deux choses pourraient arriver. Soit j'allais fondre en larmes, soit j'allais me jeter sur lui. J'ai attendu, mais il ne m'a pas regardé. Il regardait Lena. Il l'observait intensément, et cela m'a glacé le sang. J'ai avancé sans réfléchir, bousculant les gens sur mon passage. Il se tenait sur le côté, toujours concentré sur Lena, qui retirait ses chaussures. Quand les hommes regardent les filles comme Lena, ils peuvent exprimer toutes sortes de sentiments. Le désir, la faim, le dégoût. Je ne distinguais pas ses yeux, mais ce n'était pas la peine. Je savais ce que j'y aurais lu. Je me suis dirigée vers lui et un bruit a commencé à enfler dans ma gorge. Les gens me dévisageaient. Compassion ou confusion, cela m'était égal. Il fallait que je l'atteigne. Mais il a brusquement tourné les talons et s'est éloigné. Il a rapidement descendu l'allée jusqu'au parking. L'air est soudain revenu dans mes poumons et l'adrénaline m'a fait tourner la tête. Il est monté dans une grosse voiture verte, puis il a disparu. « Jules, vous allez bien ?» Le sergent Morgan est apparu à mes côtés et a posé la main sur mon bras. « Vous avez vu cet homme ?» lui ai-je demandé. « Vous l'avez vu ?»« Quel homme ?» a-t-elle répondu en regardant autour d'elle. « Qui ?»« C'est un homme violent. » Elle a eu l'air inquiet. « Où ça, Jules ? Est-ce que quelqu'un vous a fait... ou vous a dit quelque chose ?»« Non, je... » « Non. Quel homme, Jules ? De qui parlez-vous ?» J'avais la langue liée par les algues et la bouche remplie de boue. J'aurais voulu lui expliquer, lui dire « Je me souviens de lui. Je sais de quoi il est capable. » « Qui avez-vous vu ?» m'a-t-elle encore demandé. Et enfin, j'ai pu dire son nom. Robbie. Robbie Cannon.